En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 5 novembre 2007, le professeur Jean Leonetti, cardiologue, vice-président de la Fédération hospitalière de France et député des Alpes-Maritimes, a prononcé une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Son intervention avait pour titre « L'euthanasie ou la fin de vie ». Retrouvons-le en grande salle des séances.
Oserais-je vous dire que, bien qu'étant habitué à quelques fastes de l'Assemblée nationale, je suis très impressionné. Mais mon impression, en fait, je l'ai bien compris, ne vient pas des lieux et des pierres ou des tentures, mais de la qualité humaine qui m'accueille aujourd'hui. Et je suis très honoré d'avoir à parler devant vous et éventuellement à débattre. L'histoire qui nous importe commence dans la nuit des temps, puisque l'homme, très rapidement, sait qu'il doit mourir. C'est même une des caractéristiques de son humanité. Et cependant, si cette vérité est universelle, à partir du moment où l'homme est homme et où il sait enterrer ses morts, nous savons aussi que cette mort a été, si j'ose dire, vécue de façon extrêmement différente dans les sociétés humaines. Et cette peur de mourir, cette conscience du mourir et cette peur du mourir, cette notion de la finitude a été très différente aussi dans notre pays. Est-ce utile de rappeler, par exemple, que, alors que la mort attendue était la belle et bonne mort dans une société médiévale imprégnée de christianisme, parce qu'elle permettait, dans une société aussi qui répartissait les biens et les terres, de prendre ses précautions, parce que aussi elle permettait de se préparer à se présenter à son créateur. Aujourd'hui, cette mort attendue est une mort considérée comme négative, et la belle mort est une mort qui passe inaperçue. Et si l'on demandait à l'ensemble de nos concitoyens quelle est la plus belle mort possible, je suppose qu'ils répondraient que c'est le plus tard possible et le plus discrètement possible pendant le sommeil et sans douleur. Un sociologue, lors de la mission que nous avons guidée, disait « chaque société a la mort qu'elle mérite ». Et effectivement, on pourrait presque dire « dis-moi comment tu meurs dans ta société et je te dirai comment tu y vis ». Si tant il est vrai que la mort et la vie sont tellement imbriquées et impliquées que la vie n'aurait pas la même consistance si elle ne se terminait pas par la mort. Aujourd'hui, force est de constater qu'en un siècle, les choses ont profondément changé. D'une mort familière, d'une mort entourée, d'une mort en noir. Et permettrais-je de dire que si je regarde, compte tenu de mes origines corses, comment la mort était vécue dans un territoire montagnard, on savait qu'on allait mourir, la famille progressivement convergeait vers le village, on accueillait l'ensemble des personnes qui se recueillaient autour du mourant, qui ne pouvait évidemment pas ignorer sa mort prochaine, ne serait-ce que parce que les personnes qui étaient autour de lui avaient leur habit noir du dimanche, préparant ainsi le fait qu'on allait le porter en terre dans quelques jours. Je passe sur le fait de ce lien familial qui entoure le deuil, précède le deuil, et qui fait que la famille, à ce moment-là, écoute les dernières confidences, les derniers pardons, les dernières recommandations, et fait en sorte que ce lien se resserre pour faire en sorte que, la mort étant survenue, la personne est portée en terre, et ensuite, le repas familial qui suit. Et le repas est une nécessité pour ces personnes qui viennent de loin pour accompagner ce mourant, eh bien, solidarise encore la famille autour de celui qui est le plus endeuillé et le plus souffrant, pour faire en sorte que le deuil est porté, et il est porté, puisque la personne qui est en deuil porte le noir, quelquefois toute une vie durant, je parle, vous l'avez compris, du siècle dernier et du début du siècle dernier. Aujourd'hui, si on faisait une comparaison, on dirait que la mort de noir est devenue blanche, puisque 80% des citadins meurent à l'hôpital, et que cette mort est une mort scientifique, médicalisée, programmée, organisée, aseptisée. Et que paradoxalement, les dernières personnes qui approchent le mourant sont des hommes et des femmes en blanc, quelquefois gantés, quelquefois masqués, quelquefois distanciés par rapport à celui qui part, et qui fait en sorte que jusqu'au dernier moment, pour des raisons essentiellement médicales, on veut croire que la mort n'est pas là, puisqu'on demande encore un dosage de créatinine ou un examen complémentaire qui n'a rien à voir avec le pronostic du patient, mais qui conforte l'ensemble de l'entourage médical dans le fait qu'on est en train de soigner, donc probablement en train d'essayer de guérir, et donc qu'on n'est pas en train de mourir. La famille, elle, est derrière de l'autre côté. Elle est plus proche, elle est derrière la vitre, et elle attendra que quelqu'un vienne lui dire avec des termes qu'elle comprendra qu'à demi, qu'on n'a rien pu faire, puisque la mort naturelle n'existe plus et qu'elle n'est que l'échec d'un traitement médical. Et on verra tout à l'heure peut-être qu'elle n'est que l'interruption d'un traitement jugé disproportionné et inutile. Donc cette mort a entraîné de peur. Très paradoxalement, nos concitoyens n'ont plus tellement peur de mourir. Bien sûr que cette mort reste au fond de leur vie et au fond de leur pensée, mais comme notre société fait tout pour nous faire oublier que nous sommes mortels, elle nous fait penser que finalement, cette médecine si performante va bien arriver au moment venu à nous sortir d'affaire, et cette mort éternellement, immortellement repoussée nous ferait presque croire qu'elle arrivera toujours à trouver une solution pour faire que l'échéance passera à une autre échéance. Et donc, si la peur de mourir n'existe pas, la peur de souffrir existe. Et très probablement, elle existe en grande partie parce qu'une partie du corps médical, en France, en Europe et ailleurs, n'ont pas perçu l'idée de la souffrance telle qu'elle est connue aujourd'hui, considérant que la souffrance devait être hurlante et que la souffrance silencieuse n'existait pas, y compris la souffrance physique. Et que donc, la souffrance du vieillard et du mourant, comme la souffrance de l'enfant, n'a été prise en compte médicalement que très tardivement sur le plan scientifique et sur le plan humain. Et puis surtout, notre société a peur de mal mourir. Et le paradoxe peut-être du 21e siècle, c'est que les progrès fabuleux d'une médecine qui sauve et qui donne 10 ans de vie pratiquement tous les 25 ans et donc 3 mois de vie supplémentaires tous les ans à nos concitoyens, leur laisse l'idée que on pourrait être prolongé au-delà du nécessaire dans une vie qui serait qualifiée de dégradée, voire d'indigne, selon certains, et qui pose donc le problème de ce que l'on appelle communément l'acharnement thérapeutique et que les médecins appellent l'obstination déraisonnable. Donc peur de mal mourir, plus que peur de mourir, qui s'assortit de, a contrario, de la part du corps médical, de la peur de ne pas faire assez. Et il est assez paradoxal d'avoir souvent rencontré des médecins ne sachant plus s'arrêter, puisqu'ils considéraient que tout ce qui était possible devait être fait et que tout ce qui était fait était nécessaire. Et on comprend donc cette ambiguïté de la double peur de nos concitoyens d'être anormalement prolongés au-delà de ce qu'ils jugent être la vie normale, et de la part des médecins qui n'osent pas arrêter un traitement sous prétexte ou pour la bonne raison, et je m'expliquerai là-dessus, d'être accusé de non-assistance à personne en danger et d'être réprimé. Un instant, pour cette anecdote, lorsque dans la mission on reçoit une personne, un pénaliste averti, et que je lui demande que se passe-t-il quand on arrête une machine qui maintient artificiellement en vie une personne. La première question qu'il me pose, il me dit « Vous n'ignorez pas qu'il va y avoir la mort de la personne ?» Non, donc c'est un homicide. Bon. Et vous avez décidé de cette chose-là de manière concertée ou bien c'est une impulsion qui vous fait décider ? Non, bien sûr, c'est de manière concertée que l'arrêt de la machine s'effectue. Et vous le faites non de manière solitaire, mais vous l'avez réfléchi antérieurement, bien sûr, nous l'avons réfléchi antérieurement. Il dit bien, c'est une homicide en bande organisée avec préméditation, et c'est 30 ans de réclusion criminelle. Bien sûr, le terme était une boutade, et bien sûr, si on regarde la jurisprudence française, jamais on ne trouve une situation de ce type. N'empêche qu'elle entretient dans l'esprit d'un certain nombre de réanimateurs qui arrêtaient ou qui arrêtent 80 000 à 100 000 machines par an, entraînant par voie de conséquence le départ de leurs patients. L'idée que, comme cela d'ailleurs était dit clairement à la mission, on pourrait venir me chercher, je parle à la place du réanimateur, avec des gendarmes et me mettre les menottes pour ne pas avoir à porter secours à la personne dont j'avais la mission de porter secours. Cette double peur montre bien une société qui nie la mort et la dénie, qui en même temps pose un problème à ceux qui maintiennent les gens en vie et qui pose un problème à l'ensemble de la société qui voudrait bien mourir, mais le plus tardivement possible, et ne pas être dégradé dans la dernière partie de sa vie. L'exigence de nos concitoyens, en fait, a évolué. Et si aujourd'hui, il n'est plus besoin de survivre, mais il est surtout besoin de chercher une qualité de vie, eh bien, il demande aussi une qualité de mort. Et à cette qualité de mort, leur participation est requise. Et ils demandent d'être les acteurs, en tout cas de participer aux décisions qui entourent leur fin de vie. Et éventuellement, d'ailleurs, certains demandent à être les acteurs réels et les décisionnaires de cette fin de vie, parce qu'ils considèrent que, à ce moment-là, la médecine apparaît comme autoritaire, voire paternaliste, et décidant de tout à leur place, alors que c'est le moment crucial de leur existence. C'est dans ce contexte, donc, et après l'affaire Imbert, dont je vous passerai le contexte émotionnel, passionnel et médiatique, que la mission a commencé à essayer de travailler, non plus tellement sur le contexte sociologique, mais sur l'idée des valeurs. Et bien évidemment, deux valeurs semblent s'affronter. D'une part, la valeur de la liberté, de l'autonomie de la personne. Cette vie est à moi, et j'en sors quand je veux. Façon un peu triviale de reprendre les propos de Sénèque, qui expliquait bien que s'il n'avait pas demandé à vivre, il pouvait toujours décider, s'il le souhaitait, par le suicide, de sortir de la vie. Cette liberté, cette autonomie de la personne, est une des valeurs fondatrices de notre culture et de notre civilisation. Mais à n'en pas douter, une autre valeur fondatrice de notre civilisation est la vie humaine. Et même si un certain nombre de personnes pensent qu'elle est sacrée, d'autres, et en tout cas tout le monde, pense qu'il n'y a pas de valeur au-dessus de la valeur humaine, et que donc cette vie n'a pas de prix. Et donc, que l'on soit croyant ou non-croyant, le respect de la vie humaine est une des bases fondamentales sur laquelle notre culture, notre civilisation et nos rapports à l'homme se sont fondés. Je passe bien entendu aussi sur le « tu ne tueras point », qui est la base de toute société, et lorsque la mort peut être donnée, elle ne peut être donnée dans les sociétés qui l'avaient admise ou qui l'admettent encore que parce que c'est la puissance publique globale qui l'applique et non pas l'individu vis-à-vis de notre individu. Et si vous le permettez, on pourrait s'arrêter juste un instant sur ces deux valeurs qui paraissent des valeurs totalement intangibles et qui pourtant sont des valeurs à mes yeux relatives. Ma liberté. Ma liberté de décider de me suicider est une liberté individuelle. Et je dirais même que c'est plus une liberté qu'un droit, en ce sens que je ne peux le revendiquer à la société, mais je peux l'assumer en face de moi-même. Et d'ailleurs, le droit français est assez clair dans ce domaine. L'incitation au suicide est condamnée, mais le suicide n'est pas condamné. Je peux exercer cette liberté, mais je ne peux pas la demander comme un droit équivalent au droit à la vie. De cette liberté, posons-nous aussi le problème de savoir qu'est-ce qu'elle signifie lorsque je dis « ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue » et que ce soit au travers d'un suicide délibéré, d'un suicide assisté ou bien d'un acte euthanasique. Si je dis « ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue », je porte un jugement de valeur. Est-ce bien moi qui pose ce jugement de valeur ? Sartre disait une phrase qui m'a toujours frappé, c'est « on n'a jamais honte tout seul ». C'est le regard de l'autre qui vous dit que vous êtes dégradé, c'est le regard de l'autre qui vous fait porter une certaine honte. Et donc, quand je me regarde moi-même dans une glace et que je juge que je suis dégradé et que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je, comme dit Sartre ailleurs, est un autre. Et en fait, c'est le regard de l'autre qui me dit ma propre valeur. Et donc, dans une société qui prône évidemment la force, la jeunesse, la performance, la rentabilité, il n'est pas totalement innocent de penser que c'est la société elle-même qui dit à celui qui dit « ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue » qui lui a déjà inculqué l'idée que la situation dans laquelle il est n'est pas enviable et que puisqu'elle n'est pas enviable, elle pèse, je dirais presque elle encombre la société qui voudrait aller plus vite, plus loin et plus fort. De l'autre côté, la vie humaine est une valeur intangible. Mais qui ne s'est pas posé des questions sur ces vies éternellement prolongées ? Et lorsqu'on interroge les réanimateurs, ils nous disent « c'est pas vraiment un problème technique. Je peux maintenir une respiration artificielle autant de temps que je veux. Je peux me trouver avec des thérapeutiques qui peuvent maintenir les contractions cardiaques autant que je veux. » Et je peux maintenir les éléments biologiques, y compris l'épuration rénale, autant de temps que je veux. Autrement dit, je peux maintenir un corps en vie, sans vie humaine, ou sans humanité, autant de temps que je veux. Dans cette situation-là, qui bien entendu est excessive dans les propos, elle montre quand même que la possibilité de prolonger la vie au-delà du raisonnable n'a jamais été aussi forte dans notre société. Et donc, qu'est-ce que cette vie qui n'est une vie uniquement prolongée, sans espoir, avec la fatalité obligatoire d'une issue fatale sur une maladie grave et incurable ? Est-il raisonnable de maintenir ces thérapeutiques ? Et ça pose d'ailleurs, sur le plan de l'éthique, le problème du juste soin. Qu'est-ce que c'est que le juste soin ? Le soin, comme le dit la déontologie médicale, proportionné. Le soin proportionné, est-ce que la chimiothérapie qui va prolonger de quelques heures la personne qui n'a que quelques jours à vivre est proportionnée ? Et donc, dans cette fin de vie, la question fondamentale, elle est de se dire, au fond, ma liberté, mon autonomie, mais peut-être dictée aussi de l'extérieur. Et peut-être que la vie humaine, lorsqu'elle est artificiellement prolongée au-delà du raisonnable, n'a plus le caractère intangible et sacré de la vie humaine. Et nous avons été, non pas étonnés, mais nous avons entendu avec beaucoup de sagesse l'ensemble des religions monothéistes nous dire que, effectivement, au-delà du raisonnable, la main de Dieu devait se retirer pour laisser la main des hommes cesser de s'acharner contre la destinée humaine. Si bien que, dans ce contexte-là, de peur, de valeur, nous avons cheminé avec beaucoup de doutes et nous avons opté pour une position législative dans laquelle un certain nombre de juristes nous auraient très probablement condamnés puisque nous n'avons pas dit le droit et le non-droit. Nous nous sommes bien gardés, bien sûr, de dire le bien et le mal et nous avons simplement essayé de tracer un cheminement qui nous permettait et qui permettait à l'ensemble de nos concitoyens de trouver par un doute collectif, un effacement des certitudes individuelles et faire en sorte que, à chaque étape, la question se pose et que, à chaque instant, en fonction de la personne, en fonction des circonstances, on puisse adapter des solutions. Et nous avons bien sûr essayé de dégager plusieurs grandes situations. La première grande situation, c'est le malade qui n'est plus conscient. Je ne peux plus parler à cette personne humaine, je ne peux plus recueillir ce qu'elle souhaiterait en telles circonstances. Et donc, du colloque singulier des deux consciences et des deux confiances, il n'y a plus qu'une seule personne, le médecin, qui sait le caractère inéluctable de la mort qui vient, et en face de lui, une personne qui ne peut plus lui répondre et qui ne peut plus faire ce chemin commun. Et donc, pour essayer de pallier cette absence, nous avons mis en place trois dispositifs. Le premier dispositif, c'est les directives anticipées, qu'il ne faut pas confondre avec le testament de vie, puisque c'est simplement « voilà ce que j'aurais aimé » et plus exactement « voilà ce que j'aimerais qu'il se fasse ». J'écris « voilà ce que je souhaiterais dans le futur » et le médecin le lit en disant « voilà ce qui probablement il aimerait à l'instant ». Mais vous avez bien compris que les deux conditionnels, même les irréels du présent que j'utilise, sont bien adaptés parce que si ma liberté c'est de changer d'avis, au moment où je me pose la question, la lettre écrite est déjà périmée. Et il ne s'agit pas là d'un testament qui dit « après ma mort, voilà ce qu'il faudra faire », mais qui dit « avant ma mort, voilà comment j'aimerais que les choses soient conduites ». Si bien que, par précaution, nous avons mis que le médecin tenait compte de la directive anticipée et qu'elle ne s'imposait pas à lui. Le deuxième élément, c'est l'entourage. Mais l'entourage, c'est complexe aujourd'hui. Les familles se recomposent. Le fils aîné a-t-il plus de droits que le fils cadet, celui qui a vécu près de la famille ou du mourant, a-t-il plus de droits affectifs ou moraux par rapport à la personne qui est liée de manière plus objective, mais qui en est restée éloignée pendant tant de temps. Et donc nous avons voulu essayer de donner plus d'importance à la personne dite de confiance qui existait déjà dans la loi Kouchner de 2002, pour dire que c'est l'interlocuteur privilégié, cette personne qui a été désignée antérieurement par le malade et qui dit « c'est mon interlocuteur ». Mais en prenant bien garde au fait que la liberté ne se délègue pas et que la volonté ne s'anticipe pas et que donc la personne qui donne la vie, eh bien elle donne un avis, mais cet avis est recueilli comme est recueillie la directive anticipée. Et c'est là qu'intervient bien sûr la collégialité médicale, parce que bien que la science ne se préoccupe pas de démocratie et que souvent les savants ont fait des découvertes contre l'avis unanime de la société ou de la population à l'époque, il y a des moments quand même en médecine où quand on est plusieurs, on a moins de chances de se tromper que lorsqu'on est seul, surtout lorsque les problèmes éthiques viennent confronter les problèmes scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis le troisième pilier qui est la collégialité médicale. Et si, et quand, plutôt que si, les avis convergent, à ce moment-là, il est licite d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre des traitements jugés inutiles ou disproportionnés en cas de maladie grave ou avancée ou à un stade terminal. Ainsi sortent de la clandestinité toute une série d'arrêts thérapeutiques. Et si l'on en croit la médecine moderne, nous mourrons de deux façons dans les années à venir, soit de mort subite, et nous échapperons à l'acharnement thérapeutique par voie de conséquence, soit par arrêt ou décision de non-mise en œuvre d'un traitement qui sera jugé inutile ou disproportionné. Donc nous avons ouvert cette voie. Le deuxième cas est plus complexe et plus simple à la fois. Le malade est conscient. J'ai en face de moi une personne humaine. Et donc cette personne humaine a une caractéristique, c'est qu'elle va mourir. Mais le fait qu'elle va mourir, le terme de mourant est d'ailleurs un terme assez curieux, un participe présent sur une action immédiate est quelque chose d'assez particulier. Le mourant est bien un vivant. Et puisque ce mourant est un vivant, je dois le considérer à part entière comme une personne humaine. Et recueillir, bien entendu, dans le dialogue singulier qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, cette réciprocité, cette adhésion à la stratégie thérapeutique. Dans cette adhésion à la stratégie thérapeutique, il nous a semblé quand même que même si on pose toujours en termes d'horizontalité et d'égalité les deux consciences, il y a un sachant et un souffrant. Le fait d'être sachant élève, le fait d'être souffrant abaisse, en tout cas dans une situation que l'on pourrait imaginer conflictuelle entre les deux, le plus puissant des deux est bien évidemment celui qui sait et qui est fort par rapport à celui qui ne sait pas et qui est faible et qui va mourir. Nous avons donc voulu essayer d'inverser cette hiérarchie pour faire en sorte que le patient qui supporte effectivement bien son nom à ce moment-là de sa vie, ce souffrant et ce mourant décide de la stratégie médicale de manière dominante par rapport au corps médical et qu'il puisse, ce qui était déjà le cas, refuser un traitement et en exiger un autre. Refuser un traitement, c'est par exemple refuser une chimiothérapie dont on peut imaginer qu'elle entraîne à ce moment-là de la vie plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est exiger d'être soulagé dans une situation où, bien évidemment, la qualité de la vie prime sur la quantité de la vie. Et c'est là que nous avons introduit une notion ambiguë, une de plus dans cette loi qui a été beaucoup critiquée sur son ambiguïté, c'est le double effet. Le double effet est quelque chose de connu dans la chrétienté depuis longtemps. Pour avoir un effet positif, j'accepte un effet négatif. Mais les médecins le connaissent encore plus, puisque j'avais un maître qui me disait « Léonetti, méfie-toi des traitements qui ne font pas de mal, ils ne font généralement pas de bien. Tout principe actif, parce qu'il est actif, a par voie de conséquence des effets secondaires, quelquefois néfastes. » Et si le but est de soulager, nous avons voulu enlever le frein de la dose thérapeutique par rapport à la dose toxique sur les médicaments qui pouvaient soulager. En ce sens, effectivement, on peut donc utiliser, dans la limite de la souffrance ressentie ou prétendument ressentie, les thérapeutiques nécessaires pour enlever la souffrance, même si cela doit être au prix de raccourcir la vie. Et dans ce contexte-là, nous avons d'ailleurs constaté que nous ne faisions qu'écrire ce que la plupart des médecins faisaient, non pas de faire des doses létales volontaires de thérapeutiques morphiniques dans le but de tuer le malade, mais bien de faire en sorte que le départ soit apaisé et en tout cas qu'il soit dénué totalement de souffrance. Je dirais que non seulement cet élément-là est un élément important au moment de l'action, mais il est important avant l'action. Parce que de garantir à un malade qui ne souffrira pas est un élément majeur dans la confiance et dans l'accompagnement qu'on peut avoir avec lui et dans ce lien si tenu de révolte et d'acceptation vis-à-vis de la mort qu'il entretient jusqu'à sa fin ultime. Dans cette double effet, on en débattra si vous le souhaitez, mais j'ai souvent été accusé d'avoir cédé à un certain nombre de personnes qui justifiaient une hypocrite euthanasie par voie douce des médicaments sédatifs. Qu'on ne se méprenne pas, le texte explique bien que le médicament doit être utilisé pour enlever toute souffrance physique ou morale, mais en aucun cas pour tuer le malade, et que l'effet secondaire qui raccourcirait sa vie de quelques heures n'est que l'effet secondaire qui se paie au prix d'avoir une fin totalement apaisée. Il reste un dernier cas qui est probablement le plus difficile et le plus douloureux. Le malade est conscient, il n'est pas en fin de vie. Et sa vie peut être évaluée à 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il est maintenu en vie par un traitement médical. Il décide que ce traitement médical ne doit plus lui être administré. Et si on reste sur le code de déontologie et sur la loi antérieure, la loi disait simplement que le médecin devait tout mettre en œuvre pour essayer de le convaincre de renoncer à sa décision. Point. Que se passe-t-il après ? Personne n'en savait rien. En fait, on sait bien que de cette obligation de, non plus de moyens, mais de fins, puisque le médecin doit tout mettre en œuvre pour le persuader de renoncer, il valait mieux être suffisamment convaincant, et la meilleure façon d'être convaincant, c'était de répondre non au malade. Pouvez-vous m'arrêter ce traitement ? Vous allez en mourir. Je veux quand même qu'on arrête le traitement. Je ne vous écoute plus. Et j'ai réussi à persuader mon malade de la façon la moins ambiguë possible qu'il n'y avait pas lieu de continuer le débat. Si j'avais pas peur de prolonger trop long le débat, je dirais que j'ai un souvenir d'une jeune femme lorsque j'étais jeune chef de clinique qui avait un cancer du sein et qui avait refusé de se faire opérer. Parce qu'à cette époque-là, opérer un cancer du sein était un délabrement important, une mutilation importante, avec l'ablation totale du sein, des muscles sous-jacents, un curage ganglionnaire qui faisait grossir le bras du côté homolatéral et qui entraînait bien entendu un dégât physique important. Et cette jeune femme qui était en situation affective précaire a préféré mourir, ou plutôt je suppose qu'elle a préféré mourir puisque je ne l'ai jamais revue, qu'elle était partie de mon cabinet sans que j'aie réussi à la persuader. Et la réflexion, c'est que j'en ai eu pendant une partie de ma vie un remords, mais que, avec le recul, je pense qu'elle a exercé normalement sa liberté d'être ou de ne pas être traitée, d'être ou ne pas être guérie. Pourquoi, au fond, le malade qui serait sous respirateur, avec une maladie dégénérative comme une sclérose latérale amyotrophique, n'aurait-il pas le droit de dire à un moment donné « vous allez m'arrêter cette machine ?» Parce que vous êtes en train de me prolonger de manière artificielle, et comme vous n'avez pas le droit d'intervenir sur mon corps, sans mon accord, eh bien vous allez arrêter la machine. Et on voit bien combien il est difficile, parce que le malade là ne peut pas me fuir, d'accéder à sa demande. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté ? Est-ce que la liberté, c'est la liberté de fuir le médecin et de ne pas pouvoir partir de son lit d'hôpital ? Ou est-ce que la liberté, c'est la liberté de décider? Et donc, nous avons mis en place une procédure un peu complexe et volontairement floue qui dit que le médecin doit, avant d'accéder à la demande du malade, observer un délai raisonnable. Et nous n'avons pas voulu fixer de délai parce que, selon la maladie et selon les décisions, le délai peut être de quelques heures et peut être aussi de 3 semaines, voire plus. Et ce délai permet évidemment d'essayer de convaincre, d'essayer de voir comment l'entourage peut aussi convaincre l'intérêt de continuer à vivre. Et puis, au bout, on a dit qu'il fallait aussi changer de médecin. Parce qu'il y a quelquefois quelque chose de pernicieux dans la relation enfermée du dialogue singulier, et que le fait de faire venir un autre médecin pouvait, d'une part, amener de la collégialité, et ensuite trouver un autre interlocuteur qui pouvait avoir un autre langage vis-à-vis du malade que le médecin n'avait pas réussi à convaincre de renoncer à son funeste projet. Mais au bout du compte, c'est le malade qui doit décider. Et donc, je crois que c'est l'équilibre que de dire que le malade a le droit de renoncer à un traitement, et que renonçant à un traitement, il a le droit de demander à ce qu'on l'arrête ou qu'on ne le mette pas en œuvre, dans la mesure où, bien sûr, on garantit sa dignité, et on garantit le fait qu'il ne souffre pas du fait de l'arrêt du traitement ou de la non-mise en œuvre du traitement concerné. Dignité. Un mot sur ce mot si souvent utilisé. La dignité, on peut l'interpréter de deux façons. Souvent, aujourd'hui, la dignité est utilisée comme l'image de soi. Ma dignité. J'estime finalement que ma dignité est altérée, donc puisque ma dignité est altérée, je demande la mort. Et je demande à la société d'assumer le fait que je suis seul juge de la dignité ou de mon indignité. C'est une vision assez individualiste, mais c'est une vision assez répandue. Et d'ailleurs, l'association Droit de mourir dans la dignité, qui prône l'euthanasie, développe bien cette notion-là. Mais si on revient à Sénèque, on se souvient aussi que Sénèque distinguait de manière très ferme la dignitas et le precium. La dignitas étant bien sûr ce qui est attaché à l'homme et qui n'a pas de prix, et le precium étant bien entendu ce qui peut se vendre et qui s'attache aux choses. Et la réflexion se poursuit évidemment sur le fait que je n'ai pas le droit de me droguer, je n'ai pas le droit de me prostituer, je n'ai pas le droit de vendre un organe qui m'appartient. Parce que justement, cet organe ne m'appartient pas parce qu'il est humain. Et parce qu'en réalité, toute chose humaine devient au-delà de la chose, parce qu'il est le lien et le but de toute humanité, qu'est la pensée collective, que nous appartenons justement à cette humanité, et que cet élément-là détruit notre individualité, non pas en tant que personne, mais en tant que décision unique. Et donc, il me semble que la dignité, la vraie dignité, c'est celle qui est attachée à toute personne humaine. Et je me souviens d'un médecin qui s'appelle Goma et qui est un médecin qui a été président de la Société française de soins palliatifs, qui disait « on a tout inventé, sauf le dignitomètre ». Et lorsque les hommes commenceront à évaluer la dignité de leurs congénères et qu'ils diront qu'ils mettront de la hiérarchie dans la dignité, à ce moment-là, ils rentreront dans l'indignité parce qu'ils rentreront dans la négation de l'humanité. Dire que celui qui perd la mémoire est moins digne que celui qui l'a, c'est un danger très fort pour une société qui ne reconnaîtrait pas le plus faible. Dire que celui qui n'a plus l'usage de ses membres est moins digne que celui qui en a l'usage, c'est porter un regard qui culpabilisant et dévalorisant par rapport à une vision de la société idéale, idylliste et élitiste. Et donc, la vraie dignité, c'est celle qu'on lit, comme on le disait tout à l'heure, dans le regard des autres. Et si il y a bien une médecine qui développe cette dignité, c'est bien la médecine palliative. La loi fait une part importante à la médecine palliative, qui, à mon avis, est mal nommée, parce qu'elle s'oppose à la médecine curative, et il y aurait une médecine consolante et une médecine qui serait salvatrice. Il y aurait une médecine triomphante, celle que l'on applique, et puis il y aurait une médecine pour les faibles, celle qui console et qui est affective. Et il y aurait même une différence entre deux conceptions, si j'osais, une qui fait la part belle au concept, à la pensée, qui est plus digne que la médecine qui fait état de l'émotion et de l'affectif. Et si je vais encore plus loin, je dirais que dans notre société, on a, dans le passé, moins maintenant, mais on a souvent donné la médecine compassionnelle aux femmes et la médecine conceptuelle aux hommes, c'est-à-dire que les infirmières consolées, les chirurgiens sauvés, et la juste répartition des choses se faisait ainsi. Et pas innocent d'ailleurs de constater que dans toutes les sociétés, c'est les femmes qui s'occupent des morts, même si les hommes observent un rituel important. Dans cette parenthèse, que je ne voudrais pas iconoclaste, il nous est bien forcé de constater donc que la médecine est un tout. Et peut-être est-il bon aujourd'hui de repenser une médecine qui a été triomphante. Je parle sous contrôle de grandes autorités, moi qui ai vécu la cardiologie entre les années 70 et maintenant, j'ai bien vu comment on était passé d'un mort sur 3 à un mort sur 12. J'ai bien vu comment on sauvait des vies qui ne pouvaient pas être sauvées antérieurement. Et on a formé toute une série de médecins vers l'acte de sauver, oubliant quelquefois que la technique qui sauvait faisait passer en second plan le rapport humain. Et peut-être qu'il faut réintroduire l'humanité dans tout acte médical et qu'on ne doit pas être dans le séquentiel. Lorsque le curatif avoue son impuissance, le palliatif prend le relais. C'est comme ça qu'on présente les choses. Et d'ailleurs, la médecine palliative, on dit c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Mais mesdames et messieurs, il n'y a déjà plus rien à faire pour nous tous, puisque nous sommes déjà condamnés à mort. Donc, qui peut croire qu'il a sauvé une vie dans sa vie, même les médecins cardiologues réanimateurs dont j'étais, puisque en fait nous n'avons fait que prolonger, apaiser et restituer l'image de soi dans la personne à qui nous avions donné quelques années supplémentaires de vie. Et donc, il me semble que la médecine palliative doit être réintroduite, non pas tellement comme une spécialité nouvelle, mais comme une culture nouvelle qui imprègne les actes les plus techniques et les plus scientifiques, sous peine de se trouver un jour avec une médecine dévalorisée, parce que ça sera une médecine du garagiste SOS, et de l'autre côté, une médecine qui fera peur à nos concitoyens, parce que le glaive du sauveur se transformera en torture possible de vie déshumanisée et prolongée artificiellement. Je voudrais terminer en m'excusant auprès de vous d'avoir été si long, pour vous revenir au fond aux propos introductifs. Qu'est-ce que notre société mérite comme mort ? Une société qui nie la mort, qui la dénie même, et n'est pas en très bonne santé. Et je suis de ceux qui pensent que notre société n'est pas en très bonne santé parce qu'elle ne pose pas l'échelle de valeur dans la bonne place. Elle privilégie l'immédiat pour la durée. Elle privilégie l'individu par rapport au collectif. Elle fait que chaque projet égoïste réussi est plus valorisé et médiatisé que tout projet modeste et collectif. Et que dans cette situation, l'homme oublie souvent de vivre et ne pense plus à mourir, alors que toute la philosophie française a été une philosophie de la vie et de la mort, en pensant, de Montaigne à Heidegger ou à Kierkegaard, en pensant que l'homme est voué à la mort et que la force de sa sagesse se puise justement dans cette fragilité. Aujourd'hui, l'individu nous réclame, à nous les élus, mais à toute la société entière, plus de sécurité, plus d'efficacité, plus de rapidité, plus de certitude, moins de flou. Et la mort est visiblement cet espace gris, cet espace grisé, cet espace dans lequel les choses ne sont plus tout à fait avec les mêmes perspectives, parce que le temps est compté, parce que le temps est compté, paradoxalement, il devient plus précieux. Et parce que le temps est compté et qu'il est plus précieux, il met en exergue une vie. J'entends souvent, il ne faut pas que cette mort ne serve à rien. Les morts ne servent à rien, mais les vies servent à quelque chose. Et si la mort est l'aboutissement logique d'une vie, alors la mort et la vie sont indissociables. Et je pense que le législateur que nous avons été, qui a touché la loi de façon quelquefois excessive, on n'aurait peut-être pas dû légiférer là-dessus, quelquefois aussi, en tout cas de manière tremblante, en tout cas de manière hésitante, en tout cas en essayant de laisser un espace de liberté et de responsabilité qui est propre aussi à la nature humaine. Si j'avais un vœu, c'est que un jour, on n'essaie pas de codifier la mort comme on essaye trop souvent de codifier la vie par un excès de texte, et qui fasse en sorte que chaque homme, de toute façon, dans sa personnalité, dans son individualité, rencontrera un jour ce moment, expérience impossible à transmettre, puisque nous ne parlons de la mort que de l'extérieur, et que à ce moment-là, nous y découvrirons très probablement chacun d'entre nous, peut-être nous-mêmes, peut-être la perspective de notre vie, et probablement encore un peu plus de mystère. Je vous remercie de votre attention, et une fois de plus, j'ai été très honoré de m'exprimer devant cette assemblée.
Merci.
Vous venez d'entendre la communication du professeur Jean Leonetti, cardiologue, vice-président de la Fédération hospitalière de France et député des Alpes-Maritimes devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Son intervention avait pour titre « L'euthanasie ou la fin de vie ».